BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous. Il y a déjà pas mal d'ambiance sur ce plateau. Bienvenue sur BFM Business. Très heureux de vous retrouver. Il est 20h en ce lundi 25 mars 2024. Et comme chaque soir, on va passer une heure et demie ensemble. En tout cas, si vous le voulez bien. Une heure et demie dédiée à la tech. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Radio, télé, replay, podcast. Avec ce soir au sommaire dans Tech & Co, on va revenir sur le DMA. Cette histoire d'amour entre l'Union Européenne et les géants américains se poursuit. Vous allez voir qu'il y a des hauts et des bas quand même. On va en parler dans quelques instants avec nos débriefeurs. Faut-il interdire aussi l'anonymat sur Internet? Vaste sujet relancé par certains politiques aujourd'hui même. Est-ce qu'on peut en fait arriver à pister les gens sur Internet? Eh bien, on en parlera et on évoquera aussi une nouveauté d'un géant de la surveillance à la maison. C'est Verisure qui arrive à détecter les cambrioleurs et des présences grâce au Wi-Fi de votre maison. C'est une technologie très intéressante qui a été développée d'ailleurs par des ingénieurs d'Orange il y a quelques années et qui arrive donc chez Verisure. Voilà quelques-uns des sujets qu'on évoque ce soir dans Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être là et bienvenue.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débriefe l'actu tech comme chaque soir avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Taïg Chris qui est là. Salut Taïg.
Salut, salut.
Un peu trop bronzé à mon goût, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, hein? Quand on est une star du web, parfois on est bronzé. Ça va? Tout ça,
ça va
passer?
Ça va, je reviens. J'ai pris un peu de vacances.
Un peu de vacances.
Voilà, bon, c'est pour ça que je suis bronzé.
Il y avait du soleil visiblement.
Exactement.
C'est tant mieux. Damien Douani qui est un peu moins bronzé quand même, j'avoue.
Mais moi, je passe du temps derrière l'écran en fait, c'est pour ça.
Il faudrait que tu trouves un écran, tu sais, avec des.
Ouais, c'est ça qui. Ouais.
Je pense que ça n'a pas empêché Taïg de passer derrière son écran.
Des ultraviolets, oui, c'est ça.
Oui.
Le télétravail.
Télétravail. C'est clair qu'à 4 heures du matin, parce que j'étais au Brésil, j'étais quand même sur l'ordi en train de travailler.
Et oui, mais quand on est entrepreneur aujourd'hui, on est obligé de travailler tout le temps. C'est compliqué de prendre des vacances et de tout décrocher.
Mais on le fait par passion.
De tout arrêter, on le fait par passion, en effet. Taïg Chris, rappelons que tu es fondateur de On Off, entre autres. Tu es entrepreneur du web, je le disais. Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab 36. Fin connaisseur de l'actualité tech, hein. Et Frédéric Simotel, bien sûr. Salut Fred.
Salut les amis.
Journaliste à BFM Business. Quelle actualité pour ce début de semaine avec encore une fois la bataille DMA-GAFAM qu'on va vous raconter dans quelques instants. On va parler aussi de cet abonnement payant de Facebook qui est passé de 10 euros à 5, mais l'UE veut maintenant interdire cet abonnement. Voilà. Alors, est-ce que c'est légitime? On en parlera aussi. On parlera aussi d'intelligence artificielle avec Apple qui hésite visiblement parce que vous savez que les enjeux sont importants pour Apple. Hein. iOS 18 qui devrait sortir à la rentrée prochaine devrait être truffé d'IA, mais comme Apple ne serait pas prêt, il serait en train de lorgner soit du côté de Google et Gemini, soit du côté d'Anthropic. Alors on va en parler, parce que c'est intéressant. Et puis aussi la fin de l'anonymat sur le web, qui a été défendue par des députés. Alors est-ce que il faudrait qu'on soit pisté sur Internet finalement? Évidemment, derrière tout ça, il y a ce sujet de harcèlement, de fausses informations, etc., etc. Ça revient sur le tapis. On en parlera tout à l'heure, Taïg. Hein. Garde ta salive sur ce sujet, parce qu'on aura le temps de l'évoquer tout à l'heure. Mais pour débuter donc, Frédéric, Taïg et Damien, je vous invite à revenir sur le DMA. Vous le savez, cette réglementation exceptionnelle, révolutionnaire, mise en place par l'Europe pour essayer de faire un peu plier les géants de la tech américain, que ce soit Google, que ce soit Apple, que ce soit Microsoft, enfin tous y passent, Meta bien évidemment aussi, Amazon a eu son DMA et son DSA. Alors vous le savez que tous ces géants américains avaient jusqu'à début mars pour proposer en fait leur version du DMA, et visiblement l'Union Européenne est en train de dire, écoutez les gars, pour certains vous n'êtes pas allés vraiment très loin. On n'est pas satisfait. On va mener une petite enquête pour faire le point, mais a priori, il va falloir que vous alliez un petit peu plus loin dans l'ouverture en fait de vos services.
Dans les obligations, hein, il y a une vingtaine d'obligations et il faut qu'ils répondent à plusieurs de ces obligations. Et, Et là, ils y répondent, mais parfois avec un... On a juste trempé l'orteil dans l'eau.
On prend le cas d'Apple, parce que c'est celui qu'on a évoqué le plus souvent et qui est le plus, on va dire, le plus...
Emblématique.
Voilà, qui évoque le plus tout ça. Hein. C'est le fait d'avoir un App Store alternatif. Mais le problème, c'est qu'Apple ouvre l'accès à un App Store alternatif. Mais c'est vraiment sous plein de conditions particulières qui sont très complexes et qui rendent très compliqué pour un auteur, enfin, je veux dire, un éditeur d'un App Store alternatif de se lancer là-dedans. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi cette taxe des 50 centimes d'euros, vous le savez, dès qu'on dépasse le millionième de téléchargement d'applications. Bref, l'Europe dit, il va falloir faire un effort parce que là, vous n'y allez pas assez vite et assez fort. Fred, est-ce que tu penses que justement ce petit jeu du chat et de la souris, on a l'impression que c'est le début de l'histoire finalement,
c'est le début de l'histoire, mais enfin alors je vais pas revenir aux années Internet de Microsoft avec son navigateur, tout ça, qui avait quand même poussé Microsoft à désolidariser son navigateur, enfin ne plus faire entre guillemets de la vente forcée, hein. On achetait Office, mais en même temps on avait le navigateur qui était la porte d'entrée sur Internet et les autres se développaient pas. Et c'est à partir du moment où le navigateur Internet Explorer a été détaché qu'on a vu apparaître des Safari, des Opera, des Mozilla Firefox, et puis plus tard que Google s'est dit tiens, ben nous aussi on va y aller, ils ont sorti leur interface Chrome. Et là ce que je trouve bien de la part de la Commission européenne, c'est de dégainer assez vite. Le DMA est sorti, on n'attend pas 2 ans, 3 ans avant de dire tiens, on va appliquer. Là on fait ce qu'on a dit.
Là c'est 3 semaines après.
On a dit ce qu'on allait faire et on fait ce qu'on dit. Voilà. Après derrière, faut voir un peu ce que tout ça va donner, parce que on est tous pareils. Hein. L'autre jour, je crois que c'est sur ce plateau, quelqu'un disait oui, on protège le consommateur, mais on embête un peu l'utilisateur. La preuve, c'est je prends juste l'exemple qu'on prend à chaque fois, mais moi j'en suis victime à tout moment. On rentre une adresse dans Google, on n'a plus accès à Google Maps, faut ressortir pour choisir. Enfin voilà, donc c'est un peu moins pratique. Mais là, au moins les choses sont dites. C'est vrai que cette histoire des 30% est taïque pour nous en parler, parce qu'il développe des applications. Des 30%, faut le rappeler. Hein. On le rappelle ici souvent, mais quelqu'un qui développe une application, donc qui est sur l'App Store, s'il y a quelque chose qui est payant, aujourd'hui, le but
Apple
est...
Apple prend 30%.
Apple prend 30%. Merci. Et le DMA demande à ce que l'on guide un peu c'est le style, hein, on guide l'utilisateur en lui disant bon, mais si tu ne veux pas payer, si tu veux sortir de l'environnement Apple, voici une adresse web, tu y vas et là soit tu payes pas de commission, soit tu payes la commission beaucoup moindre et c'est vu directement avec l'éditeur de l'application. Et Apple, voilà, n'aime pas trop ça parce que derrière il y a un très gros chiffre d'affaires.
Mais alors, Apple
dit qu'il y a une histoire de sécurité,
et malgré tout Apple piste toutes ces applications, même qui ne passent pas par son store, parce qu'ils l'ont dit répété, je le disais tout à l'heure, dès que une application, même dans un store alternatif, a été téléchargée plus d'un million de fois,
tu payes.
Eh bien, voilà, vous passez à la banque et vous êtes obligé de donner 50 centimes d'euros à Apple pour chaque téléchargement supplémentaire.
Mais ça, c'est les règles, en tout cas, qu'Apple a décidé de mettre à la Commission européenne.
Et c'est que l'Europe conteste.
Voilà, en tout cas, moi, ce qui me fait un petit peu peur là-dedans, c'est super que la Commission européenne fasse ça, mais J'ai peur qu'il y ait déjà du lobbying et que finalement le texte définitif, parce que le plus important c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire la simplicité d'usage. Si, comme tu le disais, l'utilisateur est obligé d'aller à l'extérieur, etc. Ah ben là,
pour Google c'est ça, hein, aujourd'hui
voilà, alors qu'ils auraient simplement dû, dans l'application même, au lieu de payer via l'Apple Store, tu payes en mettant une carte bleue directement dans l'application, comme ça t'as même pas besoin de sortir et d'aller sur le web, etc. Et donc j'espère que ça va pas être qu'un effet d'annonce et dans le texte définitif il y a pas plein de petits détails qui vont détruire complètement l'expérience utilisateur, parce que si à la fin la commission dira ben voilà, on a réussi à faire passer un texte, mais nous, fabricants d'applications, on se retrouve avec quelque chose qui est tellement impossible à naviguer pour les utilisateurs, on le fera pas. Mais c'est vrai que c'est une perte à gagner gigantesque. Je veux dire, moi, on doit donner, avec OnOff, à peu près, on a à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, la moitié est chez Apple, et donc 30% partent.
Donc tu donnes au moins 3 millions d'euros par an à Apple.
Exactement.
Mais est-ce que tu es content de donner cet argent à Apple? Quand je dis ça, est-ce que c'est de l'argent mérité parce qu'il t'emmène de nouveaux clients et que cette expérience utilisateur permet peut-être à de nouveaux clients de t'abonner.
Oui et non, il y a quand même un truc qui est incroyable avec Apple, c'est qu'il y a une vraie qualité de service, c'est-à-dire qu'ils font attention que les applications, je veux dire, nous comme tout utilisateur, quand on télécharge une application sur l'Apple Store, généralement c'est pas des applications de fraude,
parce
qu'on se sent en confiance, ils font vraiment attention à la data, donc bien sûr qu'ils proposent un service, et ils ont fabriqué un store qui est incroyable, ils ont fabriqué, c'est eux qui ont inventé les stores, donc bien sûr c'est normal qu'ils soient payés. Après, quand on est 30%, c'est peut-être beaucoup.
Parce que toi, tu fonctionnes par abonnement, on est d'accord.
Par abonnement, et je vous dis, par exemple,
donc
étant
c'est
sportif...
Donc c'est 5 euros ou 15 euros, je
entre
crois.
5, on a plusieurs abonnements, mais c'est 5, ça peut monter à jusqu'à 8 pour le B2C, et après 49 euros pour le B2B. Mais,
donc à chaque fois, si tu souscris par l'iPhone, 30% de cette somme va chez Apple.
Exactement.
Tous les mois.
Tous les mois.
Tous les mois.
Tous les mois.
Même si l'abonné reste abonné pendant 2-3 ans
Non. Au bout d'un an, ça se réduit à 15%.
OK.
Mais vous voyez, quand on fait une comparaison avec, par exemple, d'autres métiers, comme le sport, moi étant sportif, tous les contrats de pub que j'avais avec des agents, généralement, dans le foot par exemple, c'est 10%. Ça peut aller jusqu'à 20% si l'agent t'apporte le contrat mirobolant que le sportif ne peut jamais avoir.
Parce que c'est du travail 30... et parce que voilà.
Mais pas 30%.
Il le mérite, c'est 20%.
Voilà. Une commission de 30%, on peut le regarder sur tous les plus grands sportifs de la planète, ça n'existe pas. Mm-hmm. Donc c'est juste la quantité de la commission.
Non, mais les 30%, en fait, ils ont été positionnés de manière quasiment arbitraire, on va dire, parce que Apple ayant créé
Apple
son propre marché,
c'est 30%.
Ben, enfin, imposé. À l'origine, ils ont ouvert un store, et ils ont dit voilà, si vous voulez mettre des applications dessus, nous on gère tout, de A à Z.
Et puis ils lancent un nouveau business temps, aussi.
Voilà. Et à l'époque, il n'y avait aucun référent.
Non.
Ok, 30%, 20, 15, 10. Bon, voilà, tu as donc 30. 30, ok, allez. Très bien. Et c'est devenu l'élément, marqueur, puisque Apple, Google a suivi derrière, et ainsi de suite. Donc ils ont mis, on va dire, ils ont mis une marche dans le. Ils ont cranté une marche dans le marché. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est vachement difficile de revenir en arrière.
Surtout que ça leur génère du chiffre d'affaires,
et ça leur génère
de la croissance.
C'est une mécanique incroyable qu'adore Tim Cook, qui est cette mécanique récurrente de générer de l'argent. Les concurrents en face font pareil, donc finalement, le système est verrouillé. Et puis voilà, et puis effectivement, les développeurs.
Là où c'est un peu pervers, parce que je comprends que par exemple, Apple pourrait te dire, ou Google, ils peuvent te dire, dans l'application, si vous voulez avoir une simplification d'usage, vous pouvez payer en un clic avec votre compte Apple. Par contre, les utilisateurs, nous, on aurait au moins voulu pouvoir mettre un texte qui dit si vous ne voulez pas payer avec votre compte Apple,
mettez votre carte bancaire.
Vous pouvez, même pas ça, vous pouvez aller sur notre site internet et payer là-bas. Alors que rien que ce petit texte, cette petite phrase, c'est interdite.
Ouais.
Donc c'est même pas c'est une phrase qui dit.
C'est là où ça devient le anti-steering, anti-guide. C'est-à-dire, ils veulent pas guider.
Oui. En fait, ils t'enferment dans leur bulle.
C'est même pas de mettre un lien. C'est pire que ça. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit
de signaler.
De le signaler que tu peux payer ailleurs.
Conclusion, t'arrives à des choses comme par exemple les applications Netflix. Prenons cet exemple. Tu ne peux pas t'abonner à Netflix. Ce n'est qu'un outil de consommation de contenu. Donc, autrement dit, il faut que tu passes sur leur site web pour pouvoir s'abonner.
Mais tu peux le faire que quand tu es Netflix, parce que quand tu es un utilisateur et que tu vas absolument Netflix,
ah oui, bien sûr.
Quand tu télécharges l'application, tu n'arrives pas à t'inscrire.
C'est pas grave, tu vas sur le web.
Je vais sur le web.
Mais quand tu es une application plus petite, moins connue,
exactement,
le mec risque de te couper de ta
Bah, tout de suite, ça marche pas, tu dis bah.
Est-ce que tu vends plus cher tes services en passant par l'iPhone que si tu t'abonnes sur le web?
Alors, d'une façon... sur le web, on fait une petite réduction. Oui, exactement. On vend un peu moins cher sur le web.
D'accord. Donc, pour récompenser
les personnes,
parce que toi, tu gagneras plus d'argent.
Mais exactement.
Les consommateurs paieront le service un petit peu moins cher.
Exactement.
Mais tu ne peux pas en informer.
Attention, tu peux en informer l'utilisateur si tu leur envoies un mail en direct.
Oui, voilà.
Si tu connais cet utilisateur, tu lui envoies un mail en direct en disant, tiens, on fait une super promotion si tu te... Mais l'utilisateur est obligé de se désinscrire.
C'est compliqué.
D'annuler son abonnement récurrent tous les mois sur Apple Store.
Il ne le fera pas.
Pour aller et t'auras.
Après, d'un autre côté, moi, je comprends qu'Apple se. Enfin, je comprends qu'Apple. Évidemment, Apple va se défendre parce qu'il y a du chiffre à faire derrière, il y a de la technologie, il y a quand même toute cette partie de sécurité.
Sécurité, qualité
service. C'est vrai qu'on part sur un site web. On offre, bien entendu, tout ça est sécurisé, mais il y a d'autres sites qui le sont beaucoup moins. C'est-à-dire, on voit même des sites, quand on voit tous les piratages qu'il y a, des sites d'État et tout ça qui le sont moins. Donc, voilà. Il y a quand même cette sécurité-là. Après, comme tu dis, c'est peut-être le côté des 30% qui est un peu trop.
Moi ce qui me fait peur avec la Commission européenne, c'est que s'ils obligent d'avoir un store alternatif, que ce store alternatif, finalement, personne ne l'utilise parce que la sécurité n'est pas là, l'expérience utilisateur n'est pas là, etc., etc. Et donc, finalement, les fabricants d'app, ils sauront qu'ils n'auront pas le choix parce qu'ils vendront plus sur
voilà. Le truc qui risque, l'effet, on va dire, vicieux qui peut se passer, c'est le fait de dire qu'à vouloir respecter à la lettre les règles, on décourage les consommateurs ou les utilisateurs à vouloir utiliser ces règles-là. Qui est à la base, on va dire, une ouverture. Le fait de pouvoir se dire, je peux choisir mon navigateur ou je peux ne plus avoir une puce RFID bridée, par exemple, et qui fait que je vais pouvoir utiliser autre chose que Apple Pay, par exemple. D'ailleurs, il y a beaucoup de banques qui commencent à se dire, ah ben chouette, je vais pouvoir arrêter enfin de payer les X% aussi qu'ils payent à chaque fois qu'on utilise le système Apple Pay. Ça a du bon d'un certain côté, mais de l'autre côté, il est logique que des acteurs comme Apple, et c'est pas les seuls, hein, on pourrait parler de Facebook aussi, vont tout faire et déployer des trésors de créativité pour arriver à contourner le système, à rentrer dans chaque petite faille et faire en sorte que justement, ça décourage l'utilisateur final qui au final va dire, je suis bien dans mon système finalement, ça va.
Et c'est pour ça que les gens qui font passer ces lois, en tout cas la Commission européenne, j'ai peur qu'ils sont pas, on va dire, des jeunes qui sont avec leur téléphone toute la journée sachent vraiment comment donner le meilleur usage
à la fois. Je trouve franchement que l'approche de la Commission européenne, elle est bonne, parce qu'il est nécessaire à un moment de mettre des règles. À des acteurs qui tordent le bras à tous les acteurs du marché. Je prends l'exemple des banques, on n'en parle pas. Mais voilà, tu veux être sur Apple, ou même ça pourrait être pareil sur Google, il faut que tu passes par leur système. Et à un moment.
Et donc une petite commission, infime à chaque fois. Mais imaginez au niveau de milliards de transactions.
Donc je pense qu'il y a des règles pour permettre de déroger justement à ces mécaniques-là qui sont assez verrouillantes. Après, toute l'astuce, c'est de faire en sorte que justement ça ne devienne pas un contre-productif. Tu prenais l'exemple du navigateur de Microsoft à l'époque qui a été, on va dire, désolidarisé de Windows. Au final, qui a désinstallé vraiment Internet Explorer à l'époque? Pas grand monde.
Oui, mais au final, qui est le numéro un des navigateurs aujourd'hui? C'est Chrome.
Oui, parce que ils l'ont laissé filer, on va dire.
Et puis avant Chrome, c'était Firefox. Je pense quand même que c'est un peu bouleversé.
Mozilla, ouais. Ça peut faire bouger.
Ça a bouleversé, ça fait bouger les lignes. C'est clair.
Pas le contraire.
Ce qui est intéressant, c'est que donc cette enquête est lancée. Reste à savoir combien de temps ça va prendre.
Il y a plusieurs enquêtes. Ils ont lancé plusieurs enquêtes.
C'est vrai que c'est quand le la réponse.
Ils n'ont pas donné de date, là, en fait.
Non, ils ont dit que ça faisait des mois que ça, c'était l'implication depuis le 7 mars, qu'ils avaient donné des mois pour eux de se retourner. Et puis, ils ont grandi. Là, ils ont dit tout ce qui n'allait pas. Donc, ils attendent une deuxième version. Ils n'ont pas donné de date. Par contre, ils ont rappelé les 10%, 20%, les amendes qui pourraient tomber. Voire plus loin, ils disent, on peut même aller, alors, ils ne disent pas démantèlement, mais ils disent à séparer des services, voire à les bloquer.
En tout cas, pour reprendre le cas d'Apple, ils ont fait un truc, par exemple, incroyable, c'est que dans beaucoup d'apps, on était traqués, les apps nous traquaient avec la pub, etc. Oui. Et donc, ils ont bloqué, ça c'est super pour les utilisateurs.
Ouais. Pour Meta, c'était bon.
C'est vrai, Meta n'a pas été content.
Meta n'a pas aimé, mais c'est vrai que pour les utilisateurs, c'est évidemment, c'est important. Juste un mot encore sur cette enquête, c'est Meta qui est visé aussi. Je le disais tout à l'heure, parce que Meta a été obligé de proposer une version payante du service Facebook pour ne plus avoir de publicité, 10€ par mois. Alors bien évidemment, personne n'est prêt à payer 10€ par mois pour ne plus avoir de pub sur Facebook, c'est clair. L'Union européenne a un peu tapé sur les doigts de Meta en leur disant, écoutez, faites un effort parce qu'à 10€, c'est pas bon. Ils sont passés à 5€ et visiblement, ça ne suffit pas puisqu'il y a encore cette enquête. Parce qu'en fait, ils estiment que Meta est un service gratuit financé par la publicité et le seul moyen que tu as d'éviter la publicité, c'est de payer 5€ par mois et que c'est complètement, on va dire, discriminant en quelque sorte.
Moi ça me choque pas du tout, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que je paye par exemple sur YouTube. C'est un cas d'usage très différent, mais le fait de payer sur YouTube,
ça a une vraie valeur ajoutée sur YouTube
t'as de la pub tout le temps. Mais quand je regarde sur les navigateurs de copains, mais je me dis, mais comment ils font pour regarder YouTube? Tu deviens dingue. Alors c'est vrai que sur Facebook, peut-être il y a pas tant de pubs que ça. Sur Instagram, par exemple,
sur Facebook, la pub, tu peux la scroller.
Il y a quand même la grosse différence.
Et puis franchement, tu es moins, enfin je pense, tu es plus souvent sur YouTube que sur sur Facebook.
Non, mais t'as la question quand même de l'exploitation des données personnelles, qui normalement devait être débrayée si tu payes, pour tout ou partie. Donc, qui est quand même le cœur du modèle économique de Facebook.
C'est-à-dire que Meta ne regarde plus tes données personnelles à partir du moment où tu payes.
Je suis sûr qu'ils ont une lettre d'excuse dans un coin qui disent que voilà, on est désolé, mais on l'a fait.
Ils les conservent, mais ils ne peuvent pas les utiliser
exactement
à des fins de publicité.
Voilà.
Tu as la nuance ? Ouais, mais pour faire quoi alors si vous les conservez ?
Bon, mais jusqu'à ce que tu ne payes pas, je pense.
Après, sûrement après, dans la même parce que quand sur Facebook tu regardes par exemple un pote, tout de suite comme par hasard sur WhatsApp, on te propose le même pote ou un truc comme ça.
Oui, il y a plein de trucs comme ça.
Vas-y.
Après, je t'en prie. Le truc, c'est que ça pose quand même une question de fond. C'est que ça remet en cause aussi le modèle économique de ces acteurs-là. Et c'est quand même compliqué de devoir changer de modèle économique. Donc, il y a une limite peut-être à l'exercice aussi du DMA-DSA, qui est à un moment quand on veut demander à un Facebook finalement de proposer une autre solution, à un moment on va dire, bah oui, mais je gagne ma vie comme ça. Donc, je fais comment ? Compliqué quand même. C'est pas évident.
Et après, ce qui manque aussi, c'est de savoir comment on fait pour avoir de la concurrence à côté. Alors là, t'as Epic avec qui veut peut-être s'allier avec Microsoft, tout ça, pour sortir un autre magasin d'app. Tu as, si on parle des réseaux sociaux, mais si on décide de taxer, allez, si on va à l'extrême de fermer Insta, Instagram, Facebook et tout ça, on va aller où ?
Non mais Fred, toi qui aimerais avoir un réseau social français ou européen, Spotify.
Mais voilà,
c'est une chance
vous allez pas vous y mettre tous les deux quand
c'est
même.
Ma bataille.
Non mais c'est une chance extraordinaire.
Mais
pour
c'est
eux,
ma bataille.
Quand même.
Moi j'arrête pas de dire, faut que Spotify devienne le réseau.
Non, mais le DSA DMA peut être une vraie chance pour eux pour essayer d'avoir des règles plus claires vis-à-vis d'acteurs comme d'autres sortes de musique.
C'est là où si l'Europe pouvait aller plus loin, mais ce serait d'accompagner certains acteurs européens à justement voir comment les pousser un peu, puis jouer un peu. Voilà la carte d'Europe.
Après, il y a en tout cas une des expériences que je ressens en utilisant ces réseaux sociaux, c'est que par exemple, quand je regarde les pubs qu'on me suggère sur Instagram, elles ne me dérangent pas parce qu'elles sont extrêmement belles, elles sont extrêmement qualitatives.
Et elles se sont ciblées.
Et elles me sont ciblées. Mais sur Facebook, elles me sont sûrement ciblées, mais c'est des pubs, désolé, mais vraiment pas bien, quoi.
Ouais.
Et donc, en fait, sur Instagram, la pub ne me dérange pas du tout, sur Facebook, elle me dérange beaucoup, et sur YouTube, c'est même pas la peine. Donc ça c'est un sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces marques qui ont besoin de vendre des trucs à la con et qui ont besoin d'exister.
Ouais, c'est clair. Tiens, on parlait de Spotify, vous avez vu que Spotify propose un nouveau service depuis quelques jours, des cours en vidéo.
Des cours en vidéo, oui.
Voilà, alors pour apprendre la musique, pour apprendre la danse, voilà, alors ça peut être pour être créatif, mode de vie sain, des cours de sport.
C'est pas la première
aussi
fois que Spotify fait des essais de vidéo, pour essayer d'élargir son marché, pas rester uniquement sur le
l'audio. Ne pas rester
l'audio
que sur la musique en streaming.
Voilà.
Où il est hautement concurrencé.
Surtout que le rapport à la vidéo aussi n'a pas, enfin, tu n'as pas le même rapport au sens où la vidéo, tu restes dessus, par définition. Alors que l'audio, tu vas l'écouter un peu de manière passive. Donc tu as un rapport à l'utilisateur et à son temps d'attention qui est très différent. Spotify essaie depuis un petit moment. Hein. Ils cherchent les podcasts, ils avaient beaucoup investi aussi. Ils ont fermé.
Ils ont investi fortement dans Be Real,
tout à fait.
Le réseau social un peu instantané. Bon.
Ouais, mais pour faire quoi ?
Ils ont investi dedans, je sais pas.
Ouais, mais bon, pour l'instant.
Ils cherchent une réinvention de leur modèle, très clairement. Spotify, ils cherchent ça. Ils l'ont pas encore touché.
Ils essaient de sortir des griffes de la concurrence d'Apple Music, d'Amazon, qui ont des crédits illimités pour. Engendrer de nouveaux abonnés parce qu'ils ont tout un écosystème.
Oui, tout à fait.
Oui, et puis que voilà, et puis eux, c'est pas leur cœur de métier. Hein.
Et à la fois, t'as un YouTube. Tu disais que tu payais pour YouTube. T'as YouTube Music, donc qui va avec théoriquement. YouTube rentre sur le marché de la musique, donc logiquement un acteur comme Spotify doit se poser la question d'aller sur de la vidéo et de la musique, ou au moins la vidéo au sens large.
C'est vrai que le fait de payer sur YouTube pour ne plus avoir de pub, ça te donne aussi accès à YouTube Music, qui est un peu le Spotify de Google, finalement, hein, avec énormément de titres, enfin tous les titres.
Ah, mais ça marche très bien.
Pour compléter, pour revenir un peu sur le DMA, les accusations, il y a d'autres accusations qui tombent. Ils estiment que Apple, lorsqu'on est sur son téléphone, n'oriente pas suffisamment vers un autre moteur de recherche.
Oui,
voilà, par défaut, on devrait nous dire, tiens, voilà les 5 moteurs de recherche, clique pour savoir lequel tu veux aller. Ils le font assez difficilement, donc les gens non averti bah, reste sur le même.
Il y a une raison à ça, tu le sais, hein, quand même. Enfin, c'est le gros chèque qu'a signé Google pour être le moteur par défaut de Safari. Donc
il y a, y a ce genre de choses. Il y a Google qui est accusé aussi de, bah, d'abus de position, qui renvoie via son moteur de recherche vers Google Fly, Google Hotel, Google.
L'autre Google. Enfin, voilà. tous les univers,
services. Voilà. Ouais. Tout son service. Donc, ça aussi, voilà, il y a des choses qui nous paraissent assez évidentes, mais.
Il y a un truc également qui est important dans tous ces termes et conditions de tous ces stores, c'est que, en quelque sorte, ils ont un tel pouvoir qu'ils se réservent dans le contrat de décider de la mort ou de la vie de chaque application sur des textes qui peuvent être interprétés par eux à leur bonne convenance. Et ça, c'est un problème, parce que à partir du moment où le texte il est écrit d'une façon suffisamment floue, et donc le Google ou Apple disent bah, « Nous, on estime que votre application ne va pas parce qu'on interprète le texte de cette façon-là, il faudrait que les textes soient plus précis et que la Commission européenne puisse aider là-dessus. »
Toi, tu n'as jamais eu des problèmes dans les mises à jour, par exemple?
Bien sûr.
Tu soumets une mise à jour, elle met un temps dingue à revenir, puis on te revient un truc. « Ah ben, ce truc-là, ça ne va pas. » Tu passes un dingue à un temps dingue.
J'ai eu un élément comme ça, et c'était marrant. Il m'envoyait le texte qui était écrit en disant « Ça... globalement, on se réserve le droit sur le design de dire que ça ressemble à des trucs qu'on fait nous-mêmes chez Apple. Et du coup...
Donc c'est pas possible.
C'est pas possible.
Oui. Mais imagine demain, Apple décide de lancer un service équivalent à un œuf. Je dis n'importe quoi, mais demain ils se disent OK, pour les utilisateurs d'iPhone, on propose 2, 3, 4 numéros de téléphone avec une seule carte SIM.
Bien sûr, mais c'est. Ça...
Il tue ton concept, mais d'une manière. En tout cas, les utilisateurs sur iPhone, ils ne tuent pas ton concept dans sa globalité.
Bien sûr.
Mais comme ils vont pusher eux-mêmes leur service en priorité aux utilisateurs d'iPhone, t'es cuit.
Alors, oui et non.
Ils en ont eu quand même pas mal comme ça. Hein.
Oui,
c'est pas les seuls.
Oui et non. Je vais te dire pourquoi. C'est même quelque chose que j'ai pris de l'autre côté du revers de la médaille. C'est qu'une société comme Apple n'est pas opérateur télécom. Donc, ils ne peuvent pas avoir de tranche de numéro. Et donc, moi, j'ai fait au contraire l'effet inverse. J'ai dit à Apple, et j'ai contacté des gens d'Apple, et pas que Apple, hein, plein d'autres sociétés comme WhatsApp, etc.
Oui, oui. Je leur ai dit, faisons un deal ensemble.
On fait un deal ensemble. Vous avez les clients et vous avez la facilité en un clic d'acheter un deuxième numéro.
Moi, je suis votre fournisseur de marque blanche.
Exactement, je suis votre fournisseur. Mais ils l'ont pas fait.
Ils n'ont pas répondu.
Non, pas encore. On verra. En tout cas, mais il y a, par exemple, là, vous avez peut-être vu aujourd'hui, il y a eu la mise à jour sur Revolut.
Mmh. Oui, ils intègrent
qui proposent eSIM.
eSIM. Donc il y en a et ils peuvent le faire.
Mais pourquoi ils font ça en fait? C'est un service supplémentaire pour conserver des clients.
C'est parce que. Alors pourquoi?
Pour peut-être diversifier leur modèle économique.
Revolut ne gagne pas beaucoup d'argent sur leur modèle bancaire. Ils gagnent de l'argent sur tous les services qu'ils proposent autour.
Et puis Revolut a une clientèle de gens qui voyagent beaucoup. Parce que la base de Revolut, c'était il n'y a pas de frais. Quand tu allais à l'étranger, il n'y avait pas de frais. Donc ils se sont vraiment constitué une base de gens qui voyagent beaucoup, qui payent à l'étranger. Donc là, la suite logique, c'est de dire, on vous met le forfait qui va bien quand vous partez à l'étranger.
Vous allez payer à l'étranger, vous allez téléphoner avec nous aussi.
Et c'est one-stop shop.
Et les eSIM de data sont en train d'exploser. Il y a deux, trois applications là, qui sont super connues là-dessus.
Mais tu vois, ce qu'on dit là, c'est là aussi la Commission européenne devrait rentrer un peu plus dans le détail. Parce qu'on a tous eu, hein, dans nos entourages, des gens qui... moi, j'en ai encore eu un le mois dernier. Des gens qui ont lancé une appli qui dit « Tu connais pas quelqu'un chez Apple parce que je suis bloqué. Je sais pas pourquoi. Ouais. » Alors, l'autre jour, c'était une personne parce qu'il refusait sa photocopie de... Enfin, son identification. Il refusait. Vous savez pas pourquoi. Donc, ça bloquait la mise à niveau de la mise dans le store de l'application. Il savait pas pourquoi.
Mais t'as ça aussi chez Google, t'as ça chez la plupart des acteurs.
La Commission européenne, elle devrait descendre aussi un peu plus en détail parfois que de rester en superficie.
En une seconde. Ouais. L'année dernière, sans aucune raison, je veux dire, j'avais même pas utilisé, j'avais pas envoyé de message, j'avais rien posté, rien, aucune raison, mon compte. Facebook, Instagram et WhatsApp bloqués.
Alors, tu sais quoi ?
Impossible de les utiliser.
Attends. Tu vas nous raconter la fin juste après les infos.
Ok.
Parce que les gens, là, sont bloqués. Ils sont obligés.
Oh, le cliffhanger, le truc.
Ils sont pas obligés de connaître la suite de cette histoire. T'as écrit, ça a été bloqué sur Insta, quoi. C'est l'info du jour. Tu vas nous expliquer comment tu t'es débloqué de cette situation.
Ah, c'est vrai.
Ça vaut le coup, hein, de rester. Ouais. Voilà. On retrouve l'info écho avec Fred, avec Taïg et Damien. Et on repart. On va parler d'Apple aussi et de l'IA qui devrait arriver dans iOS 18. Visiblement, Apple ne sait pas trop par où attaquer cette histoire-là. On en parle dans quelques instants. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech, vous le savez, chaque soir, Tech & Co, la quotidienne, c'est une heure de débrief de 20h à 21h avec les meilleurs experts qui sont là et qui commentent l'actualité. Ce soir, Taïg Chris est avec nous, fondateur de On Off, Damien Douany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab 36, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Je sais que vous attendez avec impatience le dénouement de l'histoire de Taïg Chris.
Elle n'est pas extraordinaire.
Elle n'est pas extraordinaire, mais quand même, ça nous est peut-être tous arrivé.
C'est arrivé déjà à plein de copains dernièrement.
T'étais sur tes réseaux Meta et d'un coup, paf, plus rien.
Déconnecté. Donc j'ai été log out sur tous mes réseaux Meta et impossible de me connecter, impossible de contacter Meta. Et du coup, j'ai essayé pendant des semaines.
Ah oui, des semaines quand même.
Ah oui.
Ça a duré des semaines.
Je crois pendant un mois et demi, j'avais plus de réseaux sociaux, je pouvais plus. Et je suis arrivé dans une situation où je me suis dit, je ne peux plus récupérer mes comptes. Et c'était vraiment un bug.
T'as fait du bien ou pas?
Je les utilisais pas d'une façon extrême.
Mais c'est toujours quand on ne les a pas qu'on a envie de les utiliser.
C'est hyper frustrant. Et donc j'ai heureusement eu la chance de croiser Laurent Soli un jour.
Ouais.
Et du coup, le patron Meta.
Ouais.
Je lui ai envoyé un mail et il a été extraordinaire. Il a lu mon mail et il m'a débloqué.
Est-ce que tu sais ce qui s'était passé?
Il m'a pas dit, mais je pense que c'est un bug parce que c'est arrivé pendant les mêmes mois à trois copains différents.
D'accord.
Et c'était sur aucune action puisque j'avais rien posté, un matin je me suis réveillé, impossible de me connecter.
Bon, si vous avez.
Je pense que c'était une sorte d'IA qui, je sais pas pourquoi, a dû bloquer des comptes.
Ouais, peut-être que t'as été banni pour une raison ou pour une autre. Exactement. Enfin, ça arrive, hein, parfois. Hein. Mm. Donc, si vous l'avez compris, si tout comme Taïg Chris, vous n'avez plus de compte Meta, vous appelez Laurent Soli, son mobile, tu peux le donner. Le téléphone qui sonne toute la journée.
Laurent.soli@.
C'est ça. Allez, plus sérieusement, on quitte Meta pour s'intéresser à iOS. iOS 18 va être la nouvelle mouture du système d'exploitation sur iPhone et sur iPad. Il arrivera à la rentrée prochaine. Et on attend beaucoup de cette nouvelle version d'iOS qui devrait être assez innovante, avec beaucoup d'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce qu'Apple dit. Alors quand on creuse un petit peu, on se rend compte que l'iPhone 16, qui devrait sortir en même temps, ne devrait pas être si révolutionnaire que ça, en fait. Il n'y a pas énormément d'innovation. Donc ils se disent, on va sortir un téléphone qui ressemble beaucoup au 15, mais on va apporter iOS 18, qui va apporter un peu plus de fonctionnalités et d'intelligence artificielle. Ce qu'a fait en fait Samsung avec le S24. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Galaxy S24 n'est pas... franchement, il n'y a pas beaucoup de différence avec le S23, mais en revanche, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui fait qu'on a l'impression d'avoir un téléphone plus récent, avec plus de fonctionnalités. Ça serait à peu près le même schéma qui se dessinerait pour Apple, sauf que Apple, visiblement, n'aurait pas son IA de prête. On sait qu'ils travaillent beaucoup dessus, mais elle serait pas prête pour dans les mois qui viennent. Hein. Et donc, ils se tournent vers des partenaires potentiels. On a évoqué la semaine dernière Google et Gemini. Et là, on aurait peut-être aussi Anthropic et Claude qui interviendraient dans l'iPhone. C'est assez étonnant, non, Damien, de voir comme ça Apple essayer de trouver des partenaires, pas forcément les meilleurs potes aussi d'Apple. Hein. Alors, on sait que Google et Apple ont des relations, on va dire, professionnelles de bonne qualité, mais aussi, ce sont des concurrents sur pas mal de domaines.
Oui, mais ils sont quand même depuis de longues dates, on va dire, des acteurs aussi qui se parlent et qui font des choses ensemble. On parlait tout à l'heure de moteur de recherche. Hein. Google a quand même signé un chèque de 18 milliards pour être le moteur de recherche de référence de Safari. Il y a toujours plein de choses entre eux deux, ça fonctionne bien. La question de fond, il y a toujours eu de l'IA chez Google, chez Apple, pardon. Il y a toujours, hein. Il y a de l'IA. Aujourd'hui, si je prends j'ai mon iPhone 15, par exemple. Si je vais dans mes photos et que je tape, par exemple, une photo relative à, une voiture, un arbre, un chien, il va me sortir la photo. Donc ça, c'est de l'IA. La question qu'on se pose plutôt, c'est la question de l'IA générative, qui est le sujet du moment.
ChatGPT, quoi. Voilà. Est-ce que ChatGPT va arriver dans
et qui, en gros, pose la question de, des interactions qu'on peut avoir avec un téléphone. Et bien sûr, on pense à Siri, qui n'a pas évolué, mais que c'est pas la seule. D'ailleurs, hein. Je veux dire, si on prend Alexa ou Google Assistant, c'est pas mieux. Hein. Qui a pas vraiment
évolué. D'ailleurs, Amazon a réagi et a dit qu'ils allaient faire évoluer leur Alexa avec de l'IA générative dans les semaines.
Ils ont fait une démonstration il y a un an et des brouettes de ce sujet-là. C'est pas arrivé encore, mais ils ont annoncé effectivement des mises à jour. Ouais. Donc la question de fond, c'est comment Apple va intégrer cette notion d'IA générative pour donner quelque chose de plus poussé. De l'IA, ils en ont déjà. Les ingénieurs, ils les ont déjà. Ils ont racheté des petites boîtes. La question, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'un moteur de LLM, donc un moteur de langage, pour pouvoir faire autre chose? Apparemment, ce serait pas prêt, d'où le fait qu'ils seraient en train de discuter avec des Google ou des Anthropique sur le sujet. Après, la question de fond, c'est il y a deux choses à avoir en tête. Un, Apple a besoin d'un acteur mondial pour pouvoir tenir la charge. Donc avoir un acteur qui puisse vraiment déployer tout de suite. Et il n'a pas 36 sur le marché. Si on enlève Microsoft, etc.
Il y avait OpenAI.
C'est Microsoft, oui, hein, OpenAI. Bon. Donc voilà. Et puis deuxième élément, Apple fait toujours les choses différemment des autres. Donc ils vont pas faire un moteur de LLM au sens je vais dialoguer. Ils vont intégrer différemment l'IA pour que finalement l'IA ne soit pas présente de visu dans l'appareil, mais serve. Et la question c'est sur quoi ils vont appuyer pour que ça serve.
À mon avis. Ça va ressembler. Alors peut-être je m'avance énormément parce que j'en sais rien. C'est juste un sentiment personnel. Mais je sais pas si vous avez vu passer ce boîtier, je crois chinois, d'une boîte qui s'appelait Rabbit ou
Erwan.
Et ben à mon avis, ça va aller là-dessus.
Et pas chinois d'ailleurs. Hein. Peut-être chinois. C'est une start-up californienne.
C'est une start-up californienne. Mais en tout cas.
Le héros discret du dernier CES.
Ouais.
C'est-à-dire que c'était. On parlait que de ça, mais.
Personne l'a vu.
Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a, pour utiliser une multitude de services, il y a chaque fois une app. Génial. Mais en tant qu'utilisateur, on est là à devoir taper tout le temps pour sélectionner son billet d'avion, taper tout le temps pour sélectionner son Uber, pour avoir son Deliveroo. Donc on passe du temps sur les écrans de toutes ces applications. Apple a le pouvoir de dire à tous ces fabricants d'applications, vous savez quoi ? Maintenant...
Au revoir.
Au revoir. Globalement, j'ai dans le code des applications que vous allez soumettre, je veux avoir une sorte de backdoor qui me permet via une IA de commander
de piloter
en direct
votre appli.
Mais attends, voilà, s'ils font ça, il y aura une vraie rupture.
Aujourd'hui, tu peux dire, mais il faut le faire, hein, à Siri, je veux lancer on/off ou je veux ouvrir, etc. Donc, mais il faut le programmer, il faut le faire, voilà, etc. On est d'accord. Oui, on pourrait imaginer que demain ce soit d'office une sorte d'agent intelligent où tu demandes à dire, bah, si je fais ça, finalement il y a un enchaînement de tâches. Je veux manger ce soir de la pizza et le système va être capable de le faire. C'est pas idiot. J'aime bien.
Le seul souci, c'est pas un souci pour Apple, mais c'est pour les autres, c'est les data derrière. Ces data, elles sont où? Elles sont chez Apple, elles sont chez Uber, chez tout ça. Parce que c'est là où ça va être un peu tendancieux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont accepter que.
La bataille des data sur le fait de d'ouvrir ton.
Ah oui,
ton
parce que là, c'est une bonne idée de faire les backdoors, mais voilà, savoir ce que aime commander, où aime commander son VTC, à quelle date, enfin, toutes tes habitudes de consommation, qui est-ce qui récupère ces données, est-ce que ça va aller à chaque. Ça m'étonnerait que ça aille à chaque fois chez Uber Eats, parce que là, Apple a accès à ces data. Donc c'est là où je trouve que la stratégie de certains de laisser. Si c'était ça. Ce qui n'est pas bête, ce serait un peu dangereux.
Peut-être, mais ils ont la force ou ils auraient la possibilité de te tordre le bras, de te dire ça va vous amener le business parce qu'on va vous amener.
Voilà, ils vont peut-être trouver quelque chose, un moyen. Bon, on s'avance énormément, mais un moyen pour rétrocéder, je ne sais pas comment. Mais au final, la stratégie toujours d'Apple, c'est de faire quelque chose de très innovant qui améliore l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous tous utilisateurs, on passe du temps sur des applis toute la journée à commander des trucs et à faire des trucs.
Ça sera la vraie révolution, en fait.
Mais de toute façon, c'est ce qu'a dit Bill Gates. Bill Gates, il a dit il y a deux ans à peu près, ou il y a un an, non, quand OpenAI était déjà sorti, enfin quand ChatGPT était déjà sorti, il a dit de toute façon, on va arrêter. Un jour, on n'aura plus de navigateur, on n'aura plus de robots, tout ça. On parlera tout simplement et on aura, on lui dira, je vais aller en voyage au Brésil et il s'occupera de tout.
Avec après la question que ça pose, c'est vers quel acteur il va t'amener pour pouvoir choisir tes billets. d'avions, de trains.
Et la data autre. Derrière.
Et la data qui va derrière. Et les accords qui peuvent être liés aussi. Parce qu'aujourd'hui, sur le Rabbit, on ne sait pas du et tout là, quel le type d'accord qu'il peut avoir avec quel acteur pour pouvoir t'amener
la GDT.
À moins que tu choisisses. Dès le départ,
peut-être
les acteurs que tu préfères. Mais
dans et là, on va figure... boucler avec le DMA parce que si Apple négocie avec certains, il dit bon bah d'accord, je vous prends, mais ce sera 30%.
Oui, voilà, par exemple.
Aujourd'hui, un Deliveroo.
Et je vais récupérer 30% sur Booking.
Bien sûr. Un Deliveroo, quand vous commandez un burger en bas, et ben Deliveroo, il vous prend une commission à vous, mais il prend également une commission au restaurant également, quoi.
Mais est-ce qu'Apple prend une commission sur Deliveroo ? Une bonne question, ça.
Comment ?
Ah, est-ce qu'Apple prend une commission sur Deliveroo à chaque
Oui, mais moins. Ouais. Moins, parce que c'est je crois que c'est la carte bleue.
Il y a, les 7%.
C'est une petite commission.
D'accord.
Okay. En tous les cas de figure, l'exemple que donne Taïg est super intéressant parce que oui, ce serait le type d'innovation d'usage de l'IA qui serait pertinent par rapport à l'état d'esprit d'Apple. Après, il y a un autre élément qu'il faut bien avoir en tête. Apple est super bon en IA. Prenez le Vision Pro. Le fait de pouvoir piloter de l'œil, de l'iris, de choisir l'application qu'on veut lancer avec les développeurs qui expliquent.
Mais là, on parle d'IA générative.
Pardon ?
On parle d'IA
générative. D'accord, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire bien attention à ça. Il ne faut pas résumer l'histoire, dire Apple est à la rue sur l'IA. Non, Apple n'est pas à la rue sur l'IA. Il y a plein d'exemples qui prouvent ça. Je prends l'exemple de Vision Pro. Donc, il y a le côté préemptif, par exemple, du choix de l'application via uniquement l'iris, c'est de l'IA. En revanche, sur le côté génératif, LLM, etc. Là, aujourd'hui, apparemment,
c'est là où je dis qu'ils sont à la ramasse sur l'IA. Parce que s'ils avaient des gars super bons en IA classique, ils seraient allés assez vite vers l'IA générative. Et je pense qu'ils ont un vrai souci.
Fred, c'est toi qui nous disais une fois en plateau, je me rappelle que... tu avais su ou tu avais entendu dire que, en gros, c'était une direction non claire au sein de la société.
Il n'y a pas de gouvernance.
Qui faisait que, finalement, il n'y a pas de choix qui avait été
Il y a eu ceux qui travaillaient sur l'histoire de la voiture, il y a eu ceux qui travaillaient sur Siri, il y a ceux qui. Enfin voilà, et c'était pas très clair. À un moment, c'était la grande époque. Enfin, c'était l'esprit Apple aussi. À un moment, c'était lancer trois équipes sur un même projet, et puis on prendra le meilleur. Hein. C'était comme ça que fonctionnait Steve Jobs.
En plus, maintenant,
Mais aujourd'hui, ça. Enfin, en tout cas, sur l'IA, ça, si cette méthode marchait à une époque, ça marche plus aujourd'hui.
Et puis, t'as un autre élément, c'est que l'IA besoin de data. La question, c'est qu'aujourd'hui, les modèles ont besoin d'être entraînés avec des data. Or, le modèle d'Apple est très fermé pour plein de raisons, notamment la question de la confidentialité qui leur sert de publicité. Comment tu arrives à résoudre cette équation qui est
En anonymisant les données. Peut-être.
Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on le voit chez OpenAI, chez Anthropic, ils ont été pris la main dans le pot de confiture parce que bien souvent, ils sont allés chercher des données qui étaient copyrightées, qui avaient, etc., et qui étaient protégées et qui n'auraient pas dû être dans les modèles d'entraînement.
Ça va être intéressant de voir lors de la prochaine WWDC, qui est la conférence des développeurs, comment Apple va communiquer sur l'IA générative et voir comment ils vont l'intégrer, parce que c'est toujours ça un peu la force d'Apple, c'est de rendre facile des trucs compliqués. Et comment ils vont révolutionner l'ergonomie de l'IA avec l'iPhone, en fait. C'est ça qui va être intéressant. Au-delà des partenaires qu'ils peuvent avoir avec Google et Claude, ça, on s'en fout, parce qu'ils sont tous bons, en fait. Ça va être la manière dont Apple va intégrer tout ça dans le téléphone.
Ça va sûrement être Siri aussi, Siri qui.
Sans doute.
Parce que aujourd'hui, par rapport à un chat GPT.
Moi, j'aurais racheté Rabbit.
Siri,
si j'avais été Apple.
Un peu honte.
Moi, je suis pas la seule,
toutes les IA aujourd'hui. Le gros souci avec Apple, c'est que l'un de ses gros marchés, c'est la chiffre. En croissance, c'est la Chine. Et que la Chine, si on arrive sans IA ou sans une IA performante, à la façon dont sont en train de mettre en place les Huawei, les Xiaomi, les
Oppo... Tu passes un accord à Baidu, et puis voilà. C'est un accord local.
Ah oui, bah. Voilà. Non, mais du coup, les Chinois, avoir un iPhone, super, mais quand on leur dit, ah oui, mais moi, mon iPhone Xiaomi, Huawei, voilà un peu ce qu'il fait, peut-être que... Et là, Apple, la croissance en Chine, donc il faut qu'ils aillent vite aussi sur ce côté IA, à mon avis.
Bon, on en saura plus, je pense, dans les semaines à venir, et en tout cas, lors de la WWDC, qu'on vous commentera bien sûr dans Tech & Co sur BFM Business, c'est en juin prochain. Dans l'actu aussi, vous savez qu'aujourd'hui, nos politiques aiment bien réagir sur l'actualité de la tech. alors, on avait eu Najat Vallaud-Belkacem il y a quelques jours de cela, qui avait dit, il faut un Internet frugal, donc il faudrait qu'on décide d'un maximum de gigas par semaine qu'on pourrait dépenser. Elle avait sorti 3 gigas comme ça, mais bon... Même si l'idée est sympathique à débattre, et d'ailleurs sur BFM TV, ils en ont beaucoup débattu, c'est 3 gigas quoi, en 4G, en 5G, en Wi-Fi, enfin on ne sait pas trop quoi, finalement. Mais alors bon, il y a eu cette piste qui a été proposée la semaine dernière, et puis il y a Paul Midi aussi, qui a publié dans un autre domaine, vous allez le voir, une tribune hier, qui a été signée par 125 autres parlementaires de la majorité, demandant la fin de l'anonymat. Sur Internet. Et le député Renaissance souhaite en fait répertorier chaque utilisateur sous une plaque d'immatriculation sur le modèle de l'identité numérique de La Poste, ou de France Identité, notamment. Il était l'invité de Télématin ce matin, justement, et on l'écoute et on revient juste après.
Vous pourriez garder l'anonymat vis-à-vis des autres usagers, ce qu'on appelle le pseudonymat.
D'accord, donc m'appeler par exemple Marie du 16.
Voilà, moi je peux avoir un compte Polo 91 avec la photo de mon chat, pas de problème. Okay. Je mets les informations que je veux. Je suis sous pseudonymat, je suis anonyme vis-à-vis des autres usagers. Par contre, je ne suis pas anonyme vis-à-vis de la police et de la justice si jamais je fais quelque chose de très illégal. Ça veut dire que vous avez créé une identité numérique. Il y a des millions de Français qui ont créé une identité numérique avec La Poste, par exemple, ou avec France Identité. Et vous utilisez cette identité numérique pour lier cette identité à votre compte sur le réseau social. Il y a par exemple un réseau social qui le fait, qui s'appelle LinkedIn, où vous pouvez vérifier votre identité avec un tiers de confiance qui fait le lien entre votre identité et le réseau social, parce qu'on ne veut pas que le réseau social ait, lui, votre identité,
qu'il
ait votre pièce d'identité, mais par contre, il a reçu une information qui est que vous êtes bien une personne physique et qu'il a associé à votre compte une identité numérique.
Frédéric Simotel est énervé, mesdames, messieurs. Il bougonnait.
Il n'est pas le seul sur le plateau.
Pendant ce son, Damien aussi. Fred, parce que Paul Midi, tu as beaucoup d'estime pour ce monsieur.
Oui, bah, j'ai croisé
Et moi, je me souviens.
Et même à un moment, j'imaginais que ce serait lui le potentiel ministre
d'État
au numérique, parce qu'il avait pas mal d'idées. Mais là, je pense qu'il se fourvoie complètement dans cette histoire d'anonymisation.
On raconte l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des abus sur les réseaux sociaux, désinformation, harcèlement, souvent c'est derrière des pseudos, on ne sait pas qui parle, et effectivement comme il y a cette pseudo-anonymat sur Internet, ben des gens font n'importe quoi, hein, ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils sont vraiment, hein, sur les réseaux sociaux, propos haineux, racistes, enfin, etc., etc. C'est un problème, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver une solution. Internet avec France, enfin La Poste ou France Identité, c'est un peu.
Moi, je pense que Paul Midi, en très bon ancien consultant McKinsey, a manifestement été en mission pour essayer de vendre la solution de La Poste, qui est très bien d'ailleurs, soit en passant. Mais
il n'a pas cité que La Poste.
Oui, oui, il a dit aussi France Identité, voilà, qui est celle que j'ai dans mon téléphone. D'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr.
Non, mais la blague. Mais sérieusement, l'anonymat, le pseudonymat, c'est l'obsession numérique des politiques chaque année. Moi, je fais le podcast des Éclaireurs numériques. L'année dernière, exactement cette année, on a fait un épisode sur le sujet parce que c'était déjà sorti.
La majorité sur Internet.
Oui,
empêcher les mineurs d'aller sur les sites.
L'anonymat sur Internet n'existe pas. Voilà, on va le redire. L'anonymat sur Internet n'existe pas parce que tout ce qu'il a dit sur le fait de dire on peut me retrouver, etc., c'est déjà inscrit dans la loi. Oui. C'est possible. Aujourd'hui, les FAI collaborent, les VPN collaborent avec la justice et la police s'il y a nécessité de retrouver quelqu'un. Et en plus.
Excuse-moi, je te coupe parce que c'est important ce que tu dis. Désolé. Aujourd'hui...
Désolé.
À tes souhaits.
Merci.
Non, mais c'est le soleil qui te fait ça, je pense. Aujourd'hui, je sais pas, moi, je commence à te harceler, etc. J'ai un pseudo, n'importe lequel, qui n'a rien à voir avec ce que je suis. On peut savoir que c'est François Sorel qui a écrit ces messages.
Je porte plainte, je déclare qu'il y a un problème.
C'est pas vrai.
La justice, non, les plateformes aujourd'hui collaborent avec la justice. La justice peut demander tout simplement à la plateforme qui est derrière, et on peut te retrouver très facilement. Et c'est arrivé plein de fois.
Non, mais c'est toujours le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est suffisamment aguerrie et qui va arriver à créer un compte avec un mail...
On te retrouve, on peut te retrouver. Le problème,
si
il
tu
est pas...
vas sur Tor, etc., etc.
Ah non, mais je vais te dire, le problème, c'est que si tu mets... Le truc, il est simple. Déjà, les gens qui vont sur Tor ou autre, de toutes les manières, déjà de base, ils ont envie d'être anonymes. Donc,
oui, mais quelqu'un t'harcèle... c'est pour ça, quand je dis c'est un jeu du chat et de la souris, si le mec, il a la connaissance et qu'il sait comment être vraiment anonyme sur Internet,
oui, mais
normalement, il y arrivera.
C'est pas eux qu'on cible. Là, on dit, en gros, aujourd'hui, la loi donne les moyens, mais encore faut-il que la police et la justice aient les moyens de pouvoir gérer ça en volume. Parce que déjà, tu prends une plainte avec ton nom et ton prénom. Si je dis Taïkris m'a harcelé et je porte plainte, déjà rien que ça, alors qu'on sait qui tu es, il faut être capable de pouvoir instruire ça. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que la police et la justice n'ont pas le droit. En plus, deuxième élément, tu as plein, très souvent des gens qui, tu parlais de harcèlement, se présentent sous leur vrai nom. Le tragique assassinat de Samuel Paty, c'est une personne en visage découvert qui a fait une vidéo sur Facebook en appelant à le tuer. Je veux dire, son nom et son prénom, on le savait. Donc, il y a très souvent des cas qui ne sont pas cachés. Et dernier élément, donc il y a tous les éléments possibles pour faire ça. Le fait d'introduire cette notion de carte d'identité, je vous crée un lien entre pseudonymat et votre vrai identité, c'est un moyen de ficher tout le monde. Et ça, aujourd'hui, si tu veux,
je suis pas
les lanceurs d'alerte, etc., ne peuvent plus exister. Ça me pose problème.
Je suis pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que tu dois pouvoir naviguer sur Internet en étant anonyme si tu as envie. Ça, là-dessus, pas de problème, parce que finalement, tu navigues pour toi-même. Tu as envie de chercher, je sais pas comme tu dis, un billet d'avion, mais tu n'as pas envie qu'on traque ça. Il n'y a pas de problème. Ce qui me dérange, c'est sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, tu interagis avec d'autres gens, et là...
Il y a une notion de responsabilité.
C'est pas que de responsabilité. Oui, c'est responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font... Il y a des jeunes, malheureusement, qui se suicident parce qu'ils se font harceler là-dessus. Il y en a d'autres, t'as des pédophiles qui créent des faux comptes, etc.
Il n'a pas tort, Damien, sur ce coup-là. Il n'a pas tort.
De pouvoir avoir un compte visiblement sur les autres utilisateurs où on ne peut pas, tu mets un nom bidon, etc. Mais si jamais, aujourd'hui, il y a tellement de jeunes, tu regardes sur Instagram, je crois que c'est interdit au moins de 16 ans, ou moins de 12 ans, quoi que ce soit. Mais toutes les gamines de 10 ans, elles ont Instagram.
Non, mais
et ça leur torture la tête.
Oui, mais la réalité. Mais la réforme, elle est plus profonde que ça. Et là, je rebondis sur ce que dit Damien. Déjà, les gens, quand on fait dans la vie normale, même non virtuelle, il y a pas t'as rabot porté plainte, tout ça, il y a plein d'affaires que l'on voit.
Ah oui,
les
gens ça, c'est un
peu plainte que voilà.
Mais ça, c'est,
non, mais
ça,
oui,
c'est
mais vrai. Voilà, commençons par là aussi. L'histoire de la, moi j'appelle ça des pseudo-anonymisations, parce qu'on réussit toujours à retrouver l'adresse IP, la preuve quand ils enquêtent, tu vois, sur Logbit, tout ça, ils ont même Logbit, ils ont réussi à remonter, ils en ont arrêté trois, ils en ont d'autres ciblés, tu vois, avec la collaboration aujourd'hui des fabricants.
Mais ça complexifie
les procédures. C'est une question,
d'accord. Mais tu es d'accord, c'est que après on peut dire que les autorités sont débordées et que pour un petit harcèlement, finalement, ils vont pas aller bien loin.
Ils vont pas faire la réquisition
judiciaire. Tu crois vraiment que si demain tu allais porter plainte parce que Batman 75 c'est un gamin Intel, tu crois que vraiment la police va aller aussi le sermonner?
Je crois pas. S'il est connecté sur sur une plateforme. Je sais pas moi, France Direct, quelque chose comme ça. Il le saurait, il saurait qu'il est connecté.
Je préfère qu'il fasse des messages.
Est-ce qu'on n'a pas envie, simplement, quand on a nos gamins et nos gamines, vous savez très bien, en prenant l'exemple d'un Instagram qui donne une attention incroyable. Tu vois sur Instagram que des vies exceptionnelles de gens. Donc pour peu que t'as un gamin ou une gamine qui est seul dans sa chambre, qui est pas le top modèle que tu vois sur Instagram, etc., qui est dans la puberté, qui a 11 ans, qui a 12 ans, etc., elle va partir automatiquement en déprime en deux secondes. Elle verra qu'elle sera jamais, qu'elle sera pas.
Et donc t'as pas envie.
Oui, mais
supprime l'application, fais en sorte que ta gamine n'ait jamais accès à ça.
Elles peuvent s'inscrire.
Oui, mais non, mais il faut pas qu'elle s'inscrive. Si, je veux dire, ils mettent des lois. C'est interdit au moins de 16 ans. Mais toutes les gamines de 10 ans, elles ont Insta.
Oui, mais tu vois, c'est pas lié.
Pourquoi tu fais une loi et tout le monde sait qu'on la respecte pas en étant parent. Moi, je veux dire, ma fille, elle est trop petite, elle a un an et demi. Mais le jour où elle
aura... Si elle est sur Insta, déjà, c'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Si à 8 ans, elle commence à me dire « je veux Insta », et moi, connaissant à quel point ça peut perturber de voir tout ça dans le rapport aux autres, etc., je serais bien content qu'elle ne puisse pas le télécharger, quoi.
Le truc qu'il y a à avoir en tête, c'est que derrière, la loi SREN, qui est sur la sécurité numérique, va obliger les sites X à devoir prouver
que les acteurs, enfin les gens qui viennent sur leur site sont majeurs. Il va falloir trouver un moyen de faire ça. Moi, mon sentiment, c'est que la tribune de Paul Mégy, elle est purement opportuniste.
Elle est vraiment mal née.
Par rapport à une nécessité sur certains cas, mais je pense que dans d'autres cas, ça peut vraiment être bien qu'il y ait une protection de l'identité.
Un dernier point, quand même, parce que ce sujet me tient vraiment à cœur.
On explose les compteurs. Ouais. Et c'est pas grave.
Un dernier point là-dessus, c'est que tous les fabricants d'applications, ils auraient pu bloquer ça bien avant, parce que eux, ils savent réellement le nom, l'âge des jeunes, etc. Mais eux, ils veulent vendre plus de pubs.
Oui, bien sûr.
Et donc, ils acceptent, ils ouvrent les
vannes. C'est l'hypocrisie, évidemment, de ces réseaux sociaux. Ça sera le mot de la fin. On reviendra sur ce sujet, parce que je sais qu'il vous tient à cœur et qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà, l'heure tourne, malheureusement. Merci beaucoup, Taïg.
Merci.
À très vite.
Un plaisir.
Tu reviens quand tu veux.
Merci.
Fondateur de On-Off. Merci à Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil L'Apprenti. Et merci à Fred Simotel. Tu seras là demain avec nous d'ailleurs, demain, Fred.
Non ? Je serai là demain.
Demain, tu es là. En tout cas, tu es noté sur le planning. Et quand tu es noté sur le planning, tu es là.
Tu es là.
vous verrez vous-même demain. Mais vous restez là, c'est pas terminé. On a encore une demi-heure à passer ensemble. Tech & Co, la quotidienne qui revient avec ce Wi-Fi qui peut détecter les cambrioleurs. C'est dingue ça, parce que en fait les ondes sont perturbées dès qu'il y a une présence qui arrive dans le faisceau Wi-Fi, et Verisure s'intéresse à cette technologie, c'est assez intéressant. Et puis l'AWS Summit arrive, ce sera un événement Tech & Co, bien sûr. Vous retrouverez Tech & Co la quotidienne, c'est dans 9 jours. On en parlera avec l'un des porte-parole d'AWS sur ce plateau. À tout de suite, merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, il est 21h04 sur BFM Business. Merci d'être avec nous. On est en direct comme chaque soir, vous le savez. 20h, 21h30, votre rendez-vous dédié à la tech. Il est temps maintenant de retrouver le Tech Flash. En quelques minutes, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce lundi soir, c'est avec Léa Benaïm. Salut Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une de l'actualité, Bruxelles en veut plus. Elle reproche à Apple, Alphabet et Meta de ne pas en avoir fait assez pour se conformer au DMA. La Commission européenne a lancé ce matin des procédures contre ces trois géants pour infraction présumée aux règles de concurrence. La réaction des géants de la tech ne s'est pas fait attendre. Ils dénoncent une précipitation de Bruxelles. Selon l'association de défense des GAFAM, ces procédures envoient un signal inquiétant, à savoir que l'Union européenne pourrait être en train de se précipiter dans les enquêtes sans même savoir sur quoi elles portent. Et toujours concernant l'Europe, le badge bleu sur X sera interdit aux candidats. À quelques mois des élections européennes, le service premium de X ne permet pas de mettre tous les candidats sur le même piédestal. Le badge bleu offre plus de visibilité aux candidats qui payent l'abonnement, ce qui n'est pas équitable. Il sera donc interdit, tout comme le fait de le facturer au compte de campagne. Et on reste du côté des réseaux sociaux avec WhatsApp qui va être boosté à l'IA. Il sera bientôt possible d'envoyer un prompt directement dans la barre de recherche de l'application grâce à l'IA de Meta. Pour le moment, la fonctionnalité est réservée aux bêta-testeurs, mais si le test s'avère concluant, elle pourrait être lancée d'ici quelques mois. Et puis, un géant qui revient en force, c'est VLC. 23 ans après son lancement, le lecteur vidéo le plus populaire annonce l'arrivée des chaînes Fast sur sa plateforme. Gratuit mais financé par la pub, VLC se veut comme un nouveau concurrent de Molotov ou encore de Rakuten TV. Et autre annonce, VLC s'apprête à lancer une application intégralement pensée pour le Vision Pro. Elle serait même d'ores et déjà fonctionnelle, mais son déploiement dépendrait du succès commercial du casque. Et puis rendez-vous ce week-end pour une première Business IA, une émission centrée sur la data, l'intelligence artificielle, tournée directement sur le salon de Global Industries avec Frédéric Simotel. Donc rendez-vous samedi 15h30 et dimanche 7h, et en replay et en podcast. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Business IA, oui, c'est une nouvelle tendance, une nouvelle version de l'émission Tech & Co Business, entièrement centrée sur l'intelligence artificielle et qui se déroule dans un endroit un peu particulier. C'est le salon Global Industrie de Villepinte. Cette semaine, tout le gratin de l'industrie s'est réuni ici. L'occasion, voilà, de faire un zoom sur l'industrie, la data et l'intelligence artificielle. On va en parler tout au long de cette émission avec nos invités. On aura Pierre Barnabé, le directeur général de Soitec, pour parler d'électronique, de semi-conducteurs et d'IA, bien entendu. On enchaînera avec Bruno Bouygues, cette industrie que vous connaissez bien, cette ETI pays industriels où la présence de l'IA est très très forte et de la data dans tous ces métiers. Une start-up DeepHawk, hein, il repère en un clin d'œil les défauts d'une pièce industrielle. Et puis, deuxième partie de l'émission, on parlera évidemment de cette industrie 4.0. Point 2, pourrait-on dire, avec cette IA et cette data. Et on terminera avec Jean-Marie Saint-Paul. C'est le directeur général chez Siemens, des business units Digital Industry, Digital Industry Software, voilà, pour faire ce lien entre la data, le software et l'industrie.
Voilà, Frédéric Simotel pour cette émission exceptionnelle à retrouver le week-end prochain, 21h07. On va parler maintenant de sécurité à la maison et de surveillance avec le leader du marché, Verisure.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille sur le plateau Alex Froment-Curtil. Bonsoir Alex.
Bonsoir François.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avec le directeur plaisir. Général de Verisure France. Voilà, Verisure qui est un poids lourd, on va dire, hein, de la surveillance. Hein. On vous connaît, en tout cas, tous ceux qui ont une résidence, une maison ou même une résidence secondaire ont souvent fait appel ou font appel à vos services, même si on se rend compte que la concurrence commence aussi à se mettre en place. On l'évoquera peut-être aussi tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que Verisure, c'est une boîte de tech.
Oui.
Avant tout, on ne se rend pas compte, mais effectivement, pour sécuriser une maison, il faut des capteurs, il faut des caméras, enfin, il faut toute une multitude d'objets connectés, finalement, que vous mettez en place dans les maisons. C'est un peu, le point d'entrée de votre technologie, ça, la tech. Il faut forcément de la tech pour surveiller une maison aujourd'hui.
Alors, Verisure, c'est le mariage de la tech, de l'innovation, hein, mais de l'humain aussi. Et pour nous, c'est le mariage des deux qui fait toute la différence. Verisure, vous le disiez, un grand du secteur, surtout le leader en Europe et en France, de l'alarme télésurveillée. Donc notre mission, c'est simple, hein, c'est de protéger un maximum de foyers français contre les risques d'intrusion, mais aussi contre les risques d'incendie et d'accidents corporels. Et d'accord. Pour ça, on prend les nouvelles technologies qu'on adapte toujours et qu'on va placer dans les habitats de nos protégés. Et ces informations techniques, finalement, ces signaux, vont nous permettre à nos agents de télésurveillance, 24 heures sur 24, d'analyser ces signaux, de faire une levée de doute et faire appel aux forces de l'ordre dans un cas avéré, en fait.
Concrètement, et en étant en toute franchise, oui. Est-ce que vous arrivez à barrer la route à tous les cambriolages aujourd'hui, avec votre technologie ?
Alors, nous, on est vraiment très, très focusé sur toutes les étapes et toujours innover pour être encore plus performant. Je vous donne un exemple très simple. Récemment, on avait lancé une technologie de détection avant intrusion. Dès qu'un cambrioleur travaille la porte, une fenêtre, donc même pas entrer, il n'y a pas eu d'intrusion, on s'est détecté et là on lance l'alarme.
Donc c'est quoi ? C'est des capteurs qui sont autour de la maison, des caméras
Oui, alors ça peut être des caméras extérieures, ça peut être des capteurs de choc qui sont une différenciation, une exclusivité Verisure. Évidemment après ça va être, une fois qu'on rentre à l'intérieur, s'il y a intrusion, qu'on puisse mettre en fuite le plus vite possible. Et donc là, c'est du brouillage, un anti-cambriolage, un fumigène qui en 30 secondes finalement remplit une place, une pièce comme ici, impossible d'y voir. Donc vraiment la mise en fuite très importante et font à la fin du process évidemment l'appel aux forces de l'ordre sur une ligne dédiée.
C'est-à-dire que c'est ça, c'est si par exemple il y a une intrusion à la maison, au bout d'un moment, vous appelez, en fait il y a un système automatique d'appel vers les forces de l'ordre.
Alors, c'est pas du tout un système automatique, c'est là où l'humain rentre en compte, c'est l'humain, c'est des opérateurs agrémentés, assermentés, 24h sur 24, qui reçoivent tous les signaux d'alarme,
okay.
12 millions par an chez Verisure, donc c'est énorme.
Donc ils vont détecter qu'une maison est en intrusion. Il n'y a pas de confirmation du propriétaire qui a une présence.
Il y a juste un signal, on ne sait pas encore ce qui se passe.
D'accord.
C'est pas un signal, pas propriété. En moyenne, il y a peut-être 10 éléments d'une propriété. C'est des multitudes de signaux d'un détecteur de fumée, une image d'une caméra, un choc. Et tout ça, c'est analysé par nos agents qui peuvent en fait confirmer oui, il y a intrusion, oui, il y a risque, ou non, c'est une alarme intempestive parce qu'un faux déclenchement finalement d'une fausse manipulation. Et à partir de là, ils font appel aux forces de l'ordre pour être en hyper-réactivité. L'hyper-réactivité, c'est la marque de fabrique dans le milieu de la sécurité.
Ok, alors ce qui est intéressant, c'est que, donc je le disais, vous testez pas mal de nouvelles technologies, notamment le Wi-Fi, qui est une espèce de radar, finalement, on s'en rend pas compte, mais quand on branche une box Wi-Fi, vous avez les ondes qui se propagent dans toute la pièce, et ça fait comme un radar, et si ce radar est perturbé par des passages de personnes, etc., eh bien, en fait, vous arrivez à le détecter. C'est ça la technologie Wi-Fi Vision.
Vous dites qu'on teste, on teste pas, on commercialise actuellement Wi-Fi Vision. c'est vraiment la technologie de la science-fiction. C'est comme ça dont les protégés réagissent quand on leur parle de ces technologies. C'est assez extraordinaire. Donc c'est de la science-fiction, mais évidemment, c'est réel aujourd'hui en France chez Verisure. Et donc la façon dont ça se passe, c'est une couche finalement supplémentaire de sécurité qui nous permet de détecter si oui ou non il y a présence humaine dans l'habitat.
Donc c'est une... C'est une preuve supplémentaire qu'il y a intrusion, c'est ça ?
Exactement.
Et qui va s'additionner à d'autres preuves.
Exactement.
Par exemple, l'infraction, une vidéo, ou alors des capteurs de mouvement qui ont détecté une force, qui n'est pas commune, en quelque sorte.
Exactement.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a une box dans la maison ? C'est la box de notre opérateur ou c'est une box à vous, là ?
Alors, notre système marche aussi sur du Wi-Fi. Hein, et donc, autour de nous, il y a en effet des ondes Wi-Fi de partout. Comme il y a plusieurs éléments Verisure qui sont installés, on peut, à travers un système de triangulation, finalement, lire les variations des ondes. Les ondes sont hyper régulières, mais dès qu'il y a une intrusion, et une intrusion, je vous parle du mouvement d'un aspirateur robot, le mouvement d'un chien, le mouvement d'un chat, le mouvement d'un humain, d'un enfant, tout ça, ça fait des perturbations des ondes qui sont différentes. Et on est capable, grâce à notre installation, d'identifier ces différences de changement des ondes et d'identifier si oui ou non il y a un humain dans la maison ou juste un aspirateur robot qui est en train de faire son travail.
D'accord, donc ça sonnera pas si un chien, un gros chien qui passe,
bien
par
sûr
exemple.
Bien sûr que non. Donc,
ou un enfant.
C'est quand il y a déclenchement en fait de l'alarme que l'on va demander à nos agents de télésurveillance de vérifier automatiquement la présence grâce au Wi-Fi Vision, et c'est un élément supplémentaire. Et c'est un élément supplémentaire qui est très intéressant, en particulier pour les zones d'ombre. Typiquement, je vous donne un exemple, dans une chambre à coucher, on ne mettra pas de caméra pour une question d'intimité, de vie privée.
Tout à fait.
Mais si notre radar est de l'autre côté du mur, avec le Wi-Fi Vision, finalement, il va pouvoir voir, si je peux me permettre de parler ainsi, les ondes Wi-Fi derrière le mur et donc dans la chambre à coucher, et identifier si oui ou non il y a présence. Et donc ça réduit tous les risques d'intrusion de cette façon.
Très bien. Donc c'est déjà disponible, cette technologie ?
Alors depuis le mois de février, nous l'installons chez tous nos protégés, tous nos nouveaux protégés.
D'accord. Ça rentre dans une logique de multitude d'appareils, de connectés, donc capteurs, je disais, caméras, etc. Combien ça coûte en fait une installation Verisure aujourd'hui ?
Alors chez Verisure, on peut s'installer à partir
de... Tout dépend de la maison, j'imagine aussi.
Oui, évidemment. Si on a des... Je parlais à le prédécesseur qui est un équipé Verisure qui a, lui, 1000 mètres carrés à protéger. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil que, évidemment, notre situation. Mais en général...
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Ouais. Mais en général, à partir de 40 euros, on peut équiper tout à fait une propriété en France.
40 euros
par mois.
Par mois, d'accord. Parce qu'après, votre modèle économique, c'est l'achat du matériel.
Le matériel appartient à nos protégés, ils peuvent l'emmener avec eux où ils veulent.
D'accord.
Et tous les mois, il y a une mensualité qui permet évidemment non seulement d'offrir le service, mais d'offrir de façon illimitée toute intervention, toute maintenance et de garder le service à le plus haut niveau possible.
D'accord, donc il faut mettre après des capteurs sur les fenêtres, des choses comme ça, des caméras.
Donc c'est un expert sécurité, c'est pas n'importe qui, c'est un expert sécurité formé.
C'est pas nous qui l'installons.
Ah non, c'est vraiment un expert sécurité qui a été formé pour identifier le risque et vous faire la meilleure recommandation qui soit adaptée à votre besoin.
Bon, la concurrence commence un petit peu à s'organiser autour de Verisure. On voit que un certain Xavier Niel a investi pas mal d'argent, 14 millions d'euros, dans Chiara, qui est votre concurrent direct. Et Xavier Niel dit, finalement, ce business de la surveillance, c'est un peu comme le business du mobile. Ils exagèrent tous énormément, ça coûte très très cher. Nous, on va casser les prix, on va diviser par deux. Et c'est vrai que quand on compare ce que coûte Chiara par rapport à Verisure, c'est beaucoup moins cher. Est-ce que vous avez peur de cette nouvelle concurrence ? On voit que Xavier Niel a complètement cassé le marché du mobile avec ses offres qui étaient beaucoup moins chères. Est-ce que ça va être le cas aussi sur la surveillance ?
Alors, j'ai personnellement passé plus de 20 ans dans les télécoms, donc c'est un milieu que je connais bien.
Très bien.
Et ça marchait très différent. À l'étranger.
À l'étranger, d'accord.
Ça marchait très différent, principalement parce que le besoin client est beaucoup plus intime. La sécurité, c'est très différent. Ce n'est pas une commodité comme la connectivité. Et en France en particulier, le marché est complètement sous-pénétré. On est actuellement à peu près à 8% de pénétration, alors que dans d'autres pays européens, on est déjà à 20-25%.
Oui.
Très différent, une fois de plus, avec le monde du mobile. Dans ce marché sous-pénétré, il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Verisure, actuellement, est le leader du marché. Mais en effet, tous les ans, des nouveaux acteurs apparaissent pour développer le marché.
Pour, je ne sais pas moi, un nouveau propriétaire d'une maison, il va peut-être comparer les deux offres. Il va voir que Chiara est deux fois moins cher. Il se dit à peu près les mêmes services.
Alors, pas du tout, les mêmes services, évidemment.
Non, mais Chiara, on installe soi-même son matériel. Mais après, on a un système de télésurveillance, on a des opérateurs, etc., comme vous, finalement.
Alors, nous, notre différenciation, c'est vraiment d'abord une différenciation technique. Et donc, en effet, je vais donner quelques exemples depuis le début sur le brouillage, sur Wi-Fi Vision, toujours à l'avance de la technologie pour augmenter la sécurité. Et deuxièmement, c'est une différence humaine, où en effet, on est leader du marché par notre hyper-réactivité, par le sens du service 100% dans l'accompagnement ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, de le client, où on intervient dès que possible, le plus rapidement possible, pour la maintenance, pour le suivi de l'expérience client au quotidien. Et donc, on croit vraiment dans cette combinaison des deux, et pas juste sur de la technique toute seule.
Merci beaucoup, Alex Froment-Curtil, d'être passé par le plateau de Tech & Co et cette nouvelle technologie, donc le Wi-Fi, qui, en fait, en quelque sorte, est un peu un radar qui arrive à détecter les présences dans la maison. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur général de Virisure France et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Pierre Bergessia nous a rejoint. Bonsoir Pierre.
Bonsoir François.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et on a l'habitude de discuter avec des robots conversationnels qui fonctionnent plus ou moins bien lorsqu'on veut contacter sa banque. On l'a tous vécu, c'est clair. Mais aux États-Unis, une start-up est allée plus loin. Pierre, elle propose aux consommateurs cette fois-ci de négocier leur dette grâce à l'IA.
Et oui, il y a un chiffre quand même que je trouve intéressant pour commencer cette chronique. C'est qu'un Américain sur trois, en fait, peine à rembourser ses dettes.
Ouais.
C'est assez énorme.
Ça prouve la détresse financière des Américains.
Hein, exactement.
Pas d'une grosse partie des Américains.
Ouais, exactement. Il y a une start-up qui s'appelle Cambio, qui a eu une idée un peu originale pour pallier ce problème. Et cette idée, c'est en fait de développer une intelligence artificielle, une IA, qui va négocier directement avec les créanciers les dettes.
C'est incroyable. Et comment ça marche, en fait? Comment ça se présente?
Alors, ça se présente sous forme en fait d'une application mobile. Et cette application mobile, elle va enregistrer vos appels avec le conseiller pour créer donc un profil très personnalisé. Alors, tout ça, c'est tout à fait légal aux États-Unis.
Hein. Oui, bien sûr. Et oui, parce qu'on va dire des choses confidentielles pendant cet appel. Mais
justement.
C'est ça qui est important.
Alors, c'est déjà enregistré aux États-Unis. Hein. C'est prévu par l'entreprise.
D'accord.
Donc, tout ça est déjà en place. Hein. Donc ces appels enregistrés vont nourrir ce profil personnalisé qui va en fait être ingéré par un robot qui va discuter en direct avec les créanciers pour renégocier la dette. Alors il y a quand même deux choses, hein, bon, trois choses même presque. Déjà, il faut être américain parce que l'application de Cambio
ne marche qu'aux US.
Ne marche qu'aux US. Hein. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que déjà, il faut prévenir au préalable sa banque que en fait elle ne parle pas avec un humain, hein, en chair et en os, elle parle avec une IA. Et la deuxième chose, c'est juste de signer une procuration comme on le ferait avec un proche.
Est-ce que ça marche finalement? Parce que c'est ça le plus important.
Eh bien oui, ça marche même super bien. Si l'on en croit l'entreprise, hein, le robot négocie même super bien parce que 70% de ses 90 000 clients auraient résolu leurs problèmes de dette carrément. Alors, fort de ce succès, Cambio a même développé une deuxième IA qui cette fois-ci en fait est plutôt pour les banques, hein, pour qu'elles vendent leurs services. Ça s'appelle Aviary AI. Et donc, toujours selon l'entreprise, hein, cette IA, elle est aussi efficace, je cite, que leurs meilleurs agents commerciaux humains. Ça fait rêver. On peut se demander, est-ce que...
Mais ça va arriver un jour chez nous.
Ouais, eh bien non. En France, étonnamment, pour le moment, aucune expérimentation n'est prévue pour ce type d'IA.
Merci beaucoup Pierre Bergessia, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et vous pouvez retrouver cet article, bien sûr, sur le site de Tech & Co et de BFM Tech. Merci beaucoup.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Mercredi prochain, mercredi en 8, ce sera l'AWS Summit, un grand rendez-vous à Paris où toute l'équipe d'AWS fêtera évidemment la tech mais aussi l'intelligence artificielle. On est partenaire de ce rendez-vous ici à Tech & Co. D'ailleurs, on vous réserve une émission spéciale que l'on vous proposera. Donc, ça sera mercredi 3 avril prochain et j'accueille Julien Lépine. Bonsoir Julien.
Bonsoir François.
Vous êtes directeur des architectes solution AWS France et je le disais, alors on va pas évidemment énumérer toutes les nouveautés, tous les invités de cette édition AWS Summit, même s'il y a des invités prestigieux, on en parlera peut-être tout
beaucoup
à l'heure, mais
oui,
c'est vrai que l'intelligence artificielle sera au cœur de ce rendez-vous cette année.
Exactement, on va commencer la journée dès le lancement de la journée effectivement par parler de l'intelligence artificielle générative.
Ouais.
On est en 2024, on est dans le monde de la tech en France,
c'est ça.
On n'a pas le choix.
Ouais.
Absolument, l'intelligence artificielle dès le début. Alors, on commence par une keynote. Donc, c'est Mélan Thompson-Bukovec, qui est une VP technologie chez Amazon Web Services.
C'est la vice-présidente d'AWS, hein, je crois.
Exactement. Ouais. Et qui aura la chance d'accueillir sur scène Anthropic, voilà, Hugging Face, et Mistral.
Waouh.
Donc dans le monde
les trois
de l'intelligence,
stars,
voilà. Dans le monde de l'intelligence artificielle générative, on aura la chance effectivement d'avoir ces entreprises, dont deux françaises.
Oui. Et qui travaillent toutes avec AWS.
Qui travaillent toutes avec AWS. En partenariat extrêmement étroit.
On ne le sait pas, mais finalement vous avez des clients, des tout petits clients, des PME qui utilisent vos services au quotidien, mais aussi des boîtes prestigieuses comme Mistral, qui est importante, Hugging Face, où vous le disiez aussi, Anthropique. Hein,
exactement. Claude, si on reprend AWS, on a été créé il y a un peu plus de 18 ans. Mm-hmm. Donc, le 14 mars 2024, c'était les 18 ans d'Amazon S3. Donc on devient un majeur en ça France. Ça y est. Enfin, la mission simple d'AWS, c'est de démocratiser l'accès à la technologie pour tous à travers le cloud computing. Au travers de l'intelligence artificielle générative, on garde exactement le même modèle. On veut démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle, et particulièrement l'intelligence artificielle générative, pour l'ensemble des entreprises. Que ce soit des étudiants, alors même hors entreprise, des étudiants qui veulent venir découvrir, qui ne savent pas trop effectivement comment avancer, des PME, des TPE, des freelances, voire des très grands groupes, effectivement. On va avoir des entreprises comme Air Liquide qui viennent parler de leur utilisation de l'intelligence artificielle.
Airbus aussi,
à travers AWS. Airbus, beaucoup de monde du monde manufacturier et de tout type d'entreprises françaises.
Vous disiez que vous aviez 18 ans, mais est-ce que les entreprises françaises sont majeures en termes de cloud? On a l'impression que il y a encore du travail, du boulot à faire pour que toutes les PME se mettent au cloud, et on a l'impression parfois qu'elles ne se rendent pas compte de l'impact de la transformation que ça peut leur apporter.
Alors, on peut le voir sous différents angles. Sur les grandes entreprises, effectivement, la grande majorité du CAC 40 utilise le cloud, et le cloud AWS particulièrement.
On a aussi parce 80... que vous êtes leader dans ce domaine.
On est leader, effectivement, sur ce segment de marché. Quand on prend les startups, c'est 83% des startups mondiales qui utilisent AWS.
Donc, alors, une startup, on peut dire que oui, c'est logique.
Effectivement. Mais quand on prend les ETI, ou même les PME et les TPE, la plupart des services qu'ils vont utiliser viennent de sociétés de type SaaS. En fait, beaucoup de ces entreprises sont des éditeurs de logiciels ou des startups. Donc, à travers cet écosystème et cet ensemble d'entreprises, on va pouvoir travailler avec l'ensemble des ETI, PME et TPE. On a aussi des équipes qui viennent travailler directement avec l'ensemble de ces types d'entreprises. Donc, on va venir au quotidien travailler avec eux, leur expliquer les bénéfices pour leur métier de ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle.
Et notamment générative, parce que vous allez beaucoup parler d'intelligence artificielle générative et expliquer concrètement à quoi ça sert au quotidien. C'est ça.
Exactement. L'idée. On a la chance d'avoir plus d'une cinquantaine de démonstrations diverses et variées. Donc, sur les trois étages du Palais des Congrès de Paris, mercredi, donc effectivement 3 avril, on aura la possibilité de découvrir comment cette intelligence artificielle générative peut aider les entreprises de manière très concrète. Donc, on va voir des démonstrateurs. Et il y a un démonstrateur que j'aime bien, où à partir d'une idée que vous allez pouvoir exprimer sous forme de texte, on va générer un modèle 3D d'un objet et on va être capable de l'imprimer directement.
Wow.
Tout ça en utilisant de l'intelligence artificielle générative. Donc le but, c'est vraiment de le rendre ludique, de le rendre très pratique, mais on travaille encore une fois avec beaucoup de groupes du CAC 40 qui vont eux aussi venir présenter leurs innovations et les rendre finalement tactiles et utilisables du grand public.
L'IA, elle est partout chez Amazon, parce que vous devez être quand même aussi le référent dans ce domaine-là. L'intelligence artificielle, elle est partout chez vous?
Ça fait plus de 25 ans, effectivement, qu'on utilise de l'intelligence artificielle dans tous nos processus. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être moins le monde du distributeur Amazon, on a des robots qui s'appellent Kiva, qui sont dans l'ensemble de nos entrepôts et qui vont venir travailler et aider les humains dans les entrepôts à être plus efficaces et à être en meilleure santé, d'ailleurs, et être plus sûrs. Tous ces robots sont pilotés par de l'intelligence artificielle. La manière dont vous utilisez le site internet, il y a énormément d'intelligence artificielle dedans. On a été parmi les pionniers, à faire de la recommandation. Donc vous avez vraiment dans chaque étape chez Amazon et chez Amazon Web Services, bien entendu pour la branche technologique, des outils d'intelligence artificielle qui sont intégrés.
Et bientôt l'IA générative sur Alexa, qu'on attend avec impatience, qui devrait bientôt arriver.
Alexa fait déjà l'intelligence artificielle générative, des modèles fondation, comme on peut en avoir. Alexa, on fait tourner de...
Mais il paraît-il qu'elle va passer à la vitesse supérieure bientôt.
C'est un domaine intéressant. C'est un domaine qui est extrêmement intéressant parce qu'il est en croissance exponentielle actuellement. Et donc, le monde du possible, finalement, s'ouvre à nous. Et toutes les technologies que l'on va pouvoir utiliser et que l'on va pouvoir créer, vraiment, sont disponibles. Et le but du Summit, c'est vraiment ça. C'est qu'on soit en étude, en train de découvrir, qu'on soit un novice du cloud, un novice de l'intelligence artificielle, de la data, ou même qu'on soit des personnes extrêmement expérimentées, on va pouvoir faire de la formation, des ateliers pratiques, assister à des présentations, plus de 150 présentations et plus d'une cinquantaine présentées par des clients. Des partenaires qui viennent aussi vous aider. On parlait des TPE et des PME. Les TPE et les PME travaillent dans un réseau de partenaires extrêmement large que nous avons la chance d'avoir en France.
Voilà, cette plongée dans l'IA est prévue la semaine prochaine. C'est mercredi 3 avril.
Le 3 avril au Palais des Congrès de Paris.
Porte Payot. On y sera d'ailleurs, puisqu'on vous réserve un Tech & Co exceptionnel. Plus de 9000 visiteurs attendus pour cette AWS Summit. On le disait, 150 sessions. Et c'est gratuit, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde.
C'est effectivement gratuit, ouvert à tout le monde.
Et merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci, Julien Lépine, directeur des Architectes Solutions AWS France. Pour terminer donc ce Tech & Co, et on reviendra donc sur ce grand rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Les replays, les podcasts de Tech & Co qui vous attendent dans quelques minutes. Et on sera de retour demain, mardi, 20h. Fidèle au poste, vous le savez, pour vos 90 minutes de Tech quotidienne. Je compte sur vous. À demain.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.